enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
La mission évangélique Vase d'honneur a le plaisir de vous présenter le message du pasteur Mohamed Sanogo, premier responsable de l'église. Nous vous souhaitons un agréable moment à l'écoute de la parole.
Gloire à Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ta présence. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Hébreux, chapitre 11, à partir du verset 1. C'est notre clé principale pour parler de la deuxième école de la gloire qui a pour thème Jéhovah Jireh, c'est-à-dire découvrir Dieu dans la dimension de celui qui pourvoit. Nous disons que celui qui a la révélation du Jéhovah Jireh, nous avons dit que c'est celui qui mange, comme le Seigneur l'a dit, si quelqu'un me mange, il n'aura pas faim, il n'aura pas soif, c'est-à-dire il ne connaîtra pas le manque. Il y a une dimension de Dieu, il y a une révélation de Dieu que vous avez. Amen. Lorsqu'elle se manifeste dans votre vie, vous ne connaissez plus le manque. Et c'est cette dimension-là qui est appelée Jéhovah Jireh, c'est-à-dire le Dieu qui pourvoit. Alléluia. Le Dieu qui pourvoit. Le Dieu qui pourvoit. Lorsqu'on parle de pouvoir, on parle de celui qui vient combler le manque. Et être comblé de son manque, ce n'est pas avoir un grand compte en banque. Non, loin de là. Être comblé de son manque, c'est cette capacité, c'est cette foi que tu as en Dieu qui fait que constamment l'Éternel pourvoit, n'est-ce pas, à tes besoins. Celui qui découvre Jéhovah Jireh est quelqu'un qui ne souffre plus pour obtenir. Il a cette paix. Regardez Jésus, quand vous voyez le Seigneur Jésus, Jésus ne souffrait pas pour avoir un miracle. Il ne souffrait pas. Ça veut dire qu'il parlait aux choses et puis les choses s'accomplissaient. Il était paisible. Et quand vous découvrez la gloire de Dieu, ça, elle vous donne une paix profonde à l'intérieur de vous. Et vous avez cette assurance-là que Dieu prend soin de vous. Alors c'est pourquoi quand Israël était en train de traverser le désert, Dieu, pour leur révéler le Jéhovah Jireh, va leur donner la manne. J'ai dit que Jéhovah Jireh aussi, Jésus le présente dans le Nouveau Testament comme étant le pain qui vient du ciel. Et Christ dit que le pain que Israël a mangé dans le désert n'est pas le véritable pain, parce que lui, Jésus-Christ, il est le véritable pain. Et en parlant de ce pain, en Jean chapitre 6, il dit, « Si vous me mangez, vous n'aurez plus faim. » Alléluia. Alléluia. Et Dieu avait demandé à Israël dans le désert de ne pas faire, de ne pas garder, n'est-ce pas, la manne. Chaque jour, ils devaient prendre ce dont ils avaient besoin, hormis la veille de la fête du sabbat, où ils devaient garder le double des quantités habituelles. Et Dieu leur demandait de garder la manne, de la conserver, de l'utiliser, pardon, tous les jours. Parce que Dieu voulait qu'ils comprennent ceci, c'est que tous les jours de leur vie, il allait prendre soin d'eux. Amen. Parce que très souvent, il y a deux façons d'épargner. Il y a ceux qui épargnent, qui mettent de l'argent en banque, qui cumulent, pas pour leur avenir, mais parce qu'ils ont, ils cumulent parce qu'ils ont peur de manquer d'argent. Je ne dis pas de ne pas faire d'épargne. Dieu n'a pas dit de ne pas faire d'épargne. C'est vrai que lorsqu'on lit l'histoire de la manne, Dieu dit, n'épargnez rien, mangez tout au jour le jour. C'est qu'il avait voulu leur faire comprendre. Dieu voulait les détacher de l'épargne par la peur, de l'épargne qui vient de la peur. C'est-à-dire, je mets de l'argent en banque parce que je crains un jour d'en manquer. Non, il y a celui qui épargne, qui met de l'argent de côté parce qu'il s'apprête à financer sa destinée. C'est deux choses différentes. C'est deux façons d'épargner qui sont totalement différentes. Alléluia. Il y a celui qui met dans le grenier, pas parce qu'il a peur du lendemain. Non, mais parce que tout simplement, il est appelé à aider beaucoup de personnes. Il est appelé à faire du bien. Donc, il met de l'argent pour construire ses projets, pour construire sa vision. Non pas parce que lui, il a peur. Quand vous rentrez dans le Jéhovah Jireh, vous ne craignez pas pour le lendemain. C'est en parlant de cette dimension que Jésus pouvait dire à ses disciples, ne vous inquiétez de rien. Alléluia. Il dit, regardez les eaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, mais votre Père prend soin d'eux. Jésus est en train de dire que chaque jour, Dieu pourvoit. Et cette dimension de Jéhovah Jireh, on le verra dans la suite. Alléluia. C'est comme quelque chose qui se renouvelle chaque matin. Dieu agit de manière particulière dans votre vie. Et cette dimension-là, dont nous sommes en train de parler de Dieu, s'obtient par la foi. Alléluia. Jésus pouvait dire en Jean chapitre 11, verset 40, Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Amen. Donc, Jéhovah Jireh est une manifestation de la gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu aussi. Mais cette gloire-là est accessible par la foi. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Alors, nous sommes pour cet enseignement de la révélation de Jéhovah Jireh en train de parler de l'élément de la foi. Beaucoup de personnes viennent à l'église, beaucoup de personnes prient. En fait, nous tous qui venons ici, nous prions. Mais si nous voulons faire vraiment des statistiques réelles et profondes, nous allons nous rendre compte que moins de 10% peuvent dire qu'ils vivent véritablement l'exaucement de leur prière. En fait, moins de 10% ont découvert la dimension Jéhovah Jireh. L'Éternel nous a dit dans sa parole, tout ce que vous demandez avec foi, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Le Seigneur dit que tout ce que vous demanderez, vous le verrez s'accomplir. Mais très peu de personnes, effectivement, entrent dans l'exaucement total de leur sujet. Sur 1000 sujets qu'ils font monter vers Dieu, un ou deux sont exaucés. Et c'est dans ce moment-là qu'ils viennent rendre des témoignages. Mais le témoignage qu'ils viennent rendre, ils ont près de 98%, 99% des autres demandes n'a pas été exaucée. Et pourtant, le Seigneur a dit, tout ce que vous demanderez, pas la moitié de ce que vous demanderez, pas le dixième de ce que vous demanderez, tout ce que vous demanderez avec la foi, le Seigneur dit clairement, vous allez le recevoir. Quel est le problème? Ne sommes-nous pas comme Israël qui se trouvait à l'école de Jéhovah Jireh et qui n'est pas arrivé à jouir de ce pain véritable qui vient du ciel? Amen. Alléluia. Et c'est ce dont l'Éternel veut nous parler ce soir. Dis avec moi, la foi. La foi. La foi. Alors pour parler de la foi, il n'y a pas meilleur passage pour parler de la foi que Hébreux chapitre 11, verset 1. Amen. En fait, qui donne la définition de la foi. Et c'est ce que nous commençons à étudier précisément dimanche dernier. Il y a quelqu'un qui a écouté ça et puis il dit, oh, mais ce qu'on dit là, penser aujourd'hui, il faut penser ce qui est bien, il faut penser ce qui est juste. Il y en a qui dit, mais il y a des occultistes aussi qui enseignent ça. Vous savez, plus de 95% bien 98% des religions enseignent aussi qu'il ne faut pas voler, qu'il ne faut pas mentir. Parce qu'une secte dit qu'il ne faut pas voler, que nous on va arrêter d'enseigner qu'il ne faut pas voler. Ce que nous sommes en train de dire, ce dont je suis en train de parler, je ne suis pas en train de parler dans un livre quelque part, c'est votre Bible qui en parle. C'est parce que vous n'arrivez pas à utiliser ce même passage et que des gens à qui ce passage n'était pas réservé vivent avec cela et en jouissent et s'expliquent dans un livre, c'est vous qui avez un problème. Si je venais vous donner quelque chose qui n'était pas dans votre Bible, là, vraiment, j'allais m'excuser. Mais c'est écrit devant nos yeux. C'est Dieu qui l'a dit. C'est une loi. Ne pas voler, c'est une loi. Ça n'a rien à voir avec que vous soyez, ne pas voler, ne pas mentir. Ce que les gens enseignent, qu'on enseigne dans l'islam ou autre, ce sont des principes simples. Amen. Mais pour être sauvé, il faut croire en Jésus. Même si la personne utilise ça, elle aura l'or et l'argent du monde, mais elle va aller en enfer. Parce qu'elle utilise ça sans Dieu. Ça n'a rien à voir. Alléluia. Alléluia. Alors donc, c'est pas parce que l'islam dit de ne pas commettre adultère que toi tu dis, bon, comme c'est les musulmans qui enseignent ça et que ils ne marchent pas dans la voie de Dieu, ça veut dire qu'on doit faire le contraire. Non, ça n'a rien à voir. Amen. La foi, c'est la foi. Si je prenais une chose qui était hors de la parole de Dieu, je comprendrais ces personnes. Amen. Mais Jésus nous l'a enseigné. Alléluia. Alléluia. Et souvent, c'est ce qu'ils utilisent. Et puis, les gens utilisent la foi malencontreusement. Hein? Et ils prennent ça pour dominer, pour piller. Et puis, les chrétiens restent en train de pleurer. Mais dis avec moi, ça change aujourd'hui dans le nom de Jésus. Amen. Alors, voilà ce que le Seigneur dit. Pour entrer dans la dimension du Dieu qui pourvoit, pour entrer dans cette dimension de gloire, il faut que tu aies la foi. Or, la foi, il dit... La foi, or la foi est une ferme assurance. Certaines versions disent la ferme assurance des choses qu'on espère. Dis avec moi espérance. Une démonstration, dis avec moi démonstration. De celles qu'on ne voit pas. Dis avec moi ce qu'on ne voit pas. Alléluia. Alors, ces cinq piliers ou ces cinq étapes nous montrent les piliers essentiels de la foi. Si ces cinq éléments-là ne sont pas manifestés dans ton cœur, lorsque tu pries pour un sujet, la Bible dit, ne t'imagine pas que tu recevras quelque chose du Seigneur. Et le Seigneur le dit clairement dans le livre de Jacques chapitre 1, à partir du verset 5. Jacques chapitre 1 verset 5, il a dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Le verset 7 est clair. Si quelqu'un doute lorsqu'il prie, qu'il ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de Dieu. L'homme de Dieu qui donne ce passage est en train de parler à des croyants. Il est en train de parler à des chrétiens à qui Dieu a dit, tout ce que vous demanderez, vous obtiendrez, vous l'obtiendrez. Et il leur explique que vous pouvez ne pas obtenir. Il ne s'agit pas de beaucoup pleurer pour votre situation de problème, pour vos problèmes. Il s'agit d'appliquer la foi. Dieu n'exauce pas vos larmes. Dieu exauce la foi. Et il dit, si tu doutes, ne t'imagine pas que tu recevras quelque chose de Dieu. Il dit, il ne faut même pas rêver. Dieu ne va pas te donner. Tu peux s'être allé au ciel, mais sur la terre, tu vas mourir dans les problèmes parce que tu n'as pas appliqué la foi. Et la foi est tellement primordiale. On va le comprendre dans la suite de l'enseignement. La Bible dit ceci, mon juste vivra par la foi. Donc, si la foi est l'élément principal de la vie du juste, imaginez-vous quand on ne l'a pas. La Bible dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Vous ne pourrez rien faire sans la foi. Tous les rêves qui sont dans vos cœurs ne peuvent pas se réaliser si vous n'avez pas la foi. Tous les sujets pour lesquels vous priez ne verront pas leur exaucement si vous n'avez pas la foi. Or, avoir la foi concerne ces cinq éléments. L'espérance, la fermeté, l'assurance, la démonstration, amen, de ce qu'on ne voit pas. Il faut que ces cinq choses-là soient réunies pour que la définition de Hébreux 11:1 soit valable. Amen. Alléluia. Et nous avons parlé, nous avons introduit que le premier principe, nous avons parlé de la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Qu'est-ce qu'on ne voit pas? Et nous avons dit que tout ce qui existe comme chose visible vient d'abord du monde invisible. Cela, nous l'avons dit le dimanche dernier. Et dimanche dernier, nous avons arrêté sur le deuxième principe qui est l'espérance. Dis avec moi, espérance. 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 Alléluia. Donc la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Autrement dit, il n'y a pas de foi sans espérance. L'espérance, quand on parle d'espérance, ça nous fait penser, l'espérance n'est pas une chose qui est palpable. C'est une chose qui se passe dans le cœur d'une personne. L'espérance est une pensée. Amen. Mais pas n'importe quelle pensée. L'espérance est une pensée assez positive et assez optimiste de l'avenir. Amen. Alléluia. L'espérance est une pensée, est un rêve favorable pour le futur. Quand on parle d'espérance, on parle de futur. On parle de quelque chose qui va arriver. Dieu dit que la foi, là, c'est la ferme assurance de ce qu'on espère. Celui qui n'a pas d'espérance, il peut beau prier pour des sujets, mais ne verra pas ces sujets-là s'accomplir. L'espérance, comme je l'ai dit tantôt, c'est une pensée, c'est un souhait, c'est un rêve, c'est une vision. Alléluia. Pendant des années, à l'église, on a prié longtemps pour dire, Seigneur, donne l'amour dans l'église, donne l'amour à l'église. Ou bien prier dans nos communautés pour dire, Seigneur, nous prions pour que la corruption cesse. Nous prions pour que la corruption s'arrête. En tout cas, ça fait des siècles, entre guillemets, compris pour l'amour dans l'église. Mais j'ai rarement vu une communauté où on va dire qu'il y a l'amour. Alors je me suis rendu compte, j'ai dit, mais Dieu, pourquoi tu n'exhaustes pas le sujet là-même? Il dit, mais parle à la plupart des chrétiens, demande-leur. Combien de gens ont déjà espéré, ça veut dire rêver, imaginer une église où il y a l'amour? Amen. Ok, ou bien, nous sommes en train de prier pour la Côte d'Ivoire. Seigneur, qu'il y ait la paix, que la corruption cesse. Mais est-ce qu'en priant pour ce sujet, vous avez une fois rêvé, vous avez une fois espéré qu'un jour la Côte d'Ivoire sera sans corruption? Ça veut dire quoi? Je peux m'asseoir, me mettre à genoux, prier pour dire qu'il y ait, que je prie pour que la corruption cesse. Mais si je n'imagine pas le pays où je vais déposer un dossier sans qu'il y ait la corruption, ça veut dire si je n'ai pas d'espérance. Quelqu'un qui n'espère pas, c'est quelqu'un qui ne rêve pas. Mais rêver quoi? Pas rêver ce qu'on souhaite voir s'accomplir. Si je prie pour que le pays ne soit pas corrompu, il faut qu'à un moment donné, j'imagine dans mon rêve. Hein, parce que l'espérance, ce n'est pas encore la réalité pratique. C'est juste une pensée. Amen. La foi commence là, dans l'espérance. Ça veut dire, est-ce qu'on commence à rêver qu'un jour, je vais aller déposer un dossier et puis les gens, l'administration va traiter ça régulièrement sans que je n'aie à donner un pourboire. Est-ce que vous avez une fois rêvé à ça? Je sais que la majorité, non, n'ont jamais rêvé. Vous comprenez? Il prie pour dire, Seigneur, il faut que ça cesse. Mais il n'y a pas d'espérance. Il n'y a pas un moment où il s'asseye et puis il dit, un jour on va rentrer, on ne va même pas te demander 10 000 francs pour faire pousser ton dossier. Est-ce que vous avez déjà rêvé ça? Vous savez, si vous ne rêvez pas ça, ça ne peut pas arriver. Vous allez beau prier pour que les choses changent, les choses ne changeront pas. Même si vous mettez à faire une corporation de lutte contre la corruption, vous n'atteindrez rien si dans votre comité de lutte contre la corruption, il n'y a pas de rêve. Il n'y a pas de rêve. Parce que vous agissez sans la foi. La foi, c'est la fin maçonnerie de ce qu'on espère. Si tu n'espères pas, comment tu veux que Dieu t'exauce? Quand il dit si quelqu'un doute, qu'il ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de Dieu. Mais douter, c'est quoi? Premièrement, c'est de ne pas avoir d'espérance. Quelqu'un me suit? Est-ce qu'on peut commencer à rêver une nation où les choses vont changer? Non, pas une nation où les choses. Est-ce qu'on peut commencer à rêver une nation où tout est changé? Une nation, tout est bien. Tu déposes tes dossiers, c'est propre. Tu passes un examen. Il n'y a pas. Le monsieur, là, même si son propre fils qui passe, il est correct. Il est honnête. La majorité d'entre nous, 99%, 9. Non, 9,9999. N'ont jamais imaginé qu'un jour la Côte d'Ivoire pourrait être ainsi. Il y en a qui prient pour que la salubrité, pour que, ils disent le pays est trop sale. Est-ce que vous avez une fois rêvé un pays propre? Un pays où il n'y a pas d'ordures? Un pays qui brille, où les rues sont brillantes, avec des fleurs. Quand vous pensez à la Côte d'Ivoire, vous pensez à ça pour demain? Où tu roules comme puis tu vois les fleurs partout. Tous les feux fonctionnent. Les panneaux sont là. La ville respire. Est-ce qu'on est une fois arrivé à ça? Vous comprenez? En réalité, on n'a pas d'espérance pour la nation. Donc, quand bien même nous prierons 1000 fois, ce sujet ne peut pas être exaucé. Parce que la foi, c'est la ferme assurance de ce qu'on espère. Quelqu'un me suit? Alléluia! Vous savez que, Vazonneur, nous sommes là pour changer. Et on ne doit pas travailler sans espoir, sans espérance, sans rêve. Amen. Parce que pour que la réalité change, il faut que l'invisible soit transformé. Or, l'invisible est transformé par votre rêve. Tu ne peux pas voir. Tu es en train de prier pour ton mari. Tu dis, il me trompe. Il est tout le temps avec. Il a une maîtresse. Tu ne peux pas voir ton mari revenir dans le foyer si tu n'as pas d'espérance. Est-ce qu'un moment tu t'assois, tu imagines que ce monsieur-là laisse la fille là. Il rentre à la maison et puis il est un mari fidèle. Est-ce que tu nous fais rêver à ça? Ah, tu me diras, mais c'est mon souhait. Je vous ai dit la dernière fois, Dieu n'exauce pas votre souhait. Dieu exauce votre pensée dominante. Parce qu'en fait, votre espérance, c'est quoi l'espérance? L'espérance, c'est ce en quoi vous pensez le plus. Ok? Si, pendant que je prie, lorsque je prie pour mon mari, pour qu'il change, pour qu'il arrête, n'est-ce pas? Mais que dans ma tête, je ne pense, il est adultère, il me trompe. Sans rêve! Vous savez, je l'ai dit la dernière fois, la foi marche toujours, consciemment ou inconsciemment. Soit elle exauce ton rêve, soit elle exauce ton cauchemar. Tout dépend de ce à quoi tu penses le plus. Car ce à quoi tu penses le plus, en réalité, c'est cela ton espérance. Alléluia! Non, je vous ai dit la dernière fois que Pierre a dit, Jésus, je te rejoins. Il a dit, si c'est toi, je viens. Il a commencé à marcher. C'est la dernière parole de Pierre. En marchant, le vent l'a frappé. La mer a commencé à bouger. Quelque chose s'est passé dans sa tête. Est-ce que je peux marcher sur cette eau-là? Regarde le vent. Donc, quand il a commencé à penser, sa pensée, pas ce qu'il a dit, a commencé à plus observer la réalité des vagues. Il dit, petit Pierre, est-ce que tu vois la vague qui arrive? Quand il a vu la vague, à un moment, il ne s'est plus focalisé sur son espérance. Qui peut dire que Pierre n'avait pas de l'espérance? Si, il avait l'espérance d'atteindre le Seigneur. Mais à un moment donné, à l'intérieur de lui, sa pensée s'est focalisée sur les vagues qui arrivaient sur lui et non sur ce que le Seigneur lui a dit. Il ne s'est plus focalisé sur son rêve, mais il s'est focalisé un moment sur son cauchemar. C'est son cauchemar qui a été exaucé. Il a commencé à se noyer. Jésus est venu l'attraper, il a dit. La Bible dit que Pierre a eu peur. C'est quoi la peur? La peur, c'est lorsque votre être est envahi, vos pensées, vos sens sont envahis par quelque chose que vous craignez. C'est pas ça la peur? C'est pas ça la peur? Sinon, dans la vie, tout le monde a un petit... On a une toute petite crainte. N'est-ce pas? Je ne sais pas les choses. Petite crainte que, bon, en sortant ma voiture, il faut que je fasse attention pour ne pas avoir un accident. Ça, c'est normal. Mais quand on parle de peur, c'est lorsque la crainte de l'accident, là, prend tout ton être au point de commencer à trembler. On dit, Pierre a eu peur. Il craignait de se noyer. C'est normal. Tout le monde craint de se noyer. Mais quand on dit qu'il a eu peur, ça veut dire la crainte de la noyade est devenue dans son esprit une pensée dominante. C'est ce qu'on appelle la peur. Sinon, s'il ne craignait pas, s'il ne savait pas que... S'il ignorait la présence de l'eau, ça n'est pas dit d'ignorer le problème. Il n'allait pas dire à Jésus, si c'est toi, ordonne à ce que je vienne sur l'eau en marchant. Il allait descendre directement. C'est parce qu'il savait que dans l'eau, là, on peut se noyer. Il avait conscience. Ce que je dis, je ne suis pas en train de vous dire d'ignorer les problèmes. Mais je suis en train de vous dire, vous pensez plus à quoi? À vos problèmes ou à votre rêve? Vous méditez plus sur quoi? Sur vos cauchemars ou sur vos espérances? Si je veux prier pour que mon mari change et que je pense plus à la souffrance qu'il m'apporte, je médite. Mais il est méchant, mon mari. Oh, il est dangereux. Ah, c'est un trompeur. Ah. Et puis après, un jour, un dixième de ma pensée, Dieu est bon. Peut-être qu'il va faire quelque chose. J'ai dit ça un peu sur mon... Et puis après, mais il est mauvais. Oh, mais il rentre toutes les nuits tard. C'est ce que tu penses là qui va s'augmenter. Tu sais, c'est ce que tu penses qui va t'arriver. Pas en réalité. En pensant à cela beaucoup plus longtemps, tu es en train de mettre ta foi et ton espérance sur ce que tu crains. C'est pourquoi Job pouvait dire, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ça veut dire quoi? Regardez la vie de Job. La Bible dit que, quand chaque fois que ses enfants font quelque chose, Job partait les sanctifier. Vous avez suivi ça, non? Ça veut dire, il avait tellement peur que ses enfants s'éloignent de Dieu, qu'ils meurent. C'est ce qui lui est arrivé. Il dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Mais est-ce que Job a une fois dit qu'il veut que ses enfants aient des problèmes? Qu'il veut perdre son argent? Comment ça se fait que sa peur a été exaucée? Quelqu'un me suit? Alléluia! La foi, c'est la ferme assurance de ce qu'on espère. Il faut laisser ton cœur envahi par ton rêve. Par tes espérances.